Le yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour.
Alors, peut-être un petit peu toujours déjà, je peux dire, dans la perspective de notre spectacle, le Yiddish à Paris. Yiddish à Paris, que nous allons peut-être jouer vraiment à Paris, Mirtzehachem.
Mais en tout cas à Strasbourg.
Absolument. Je vais présenter aujourd'hui un livre donc, qui s'appelle « Les Juifs de Belleville » de Benjamin Schlevin. Alors, ce livre a paru par une édition qui s'appelle « L'Échappée » et c'est une collection qui s'appelle « Paris perdu ». Donc, c'est « Disparu, le Paris médiéval, volatilisé, le Paris des bandes de gosses, évanoui, le Paris des halles, fini, le Paris de la nuit, etc. etc. » Si le vieux Paris n'est plus, sa nostalgie demeure dans les cœurs, dans les têtes, dans la littérature, dans cette collection. Et Paris n'était pas qu'une fête, tout sera raconté sans détour, la misère, la condition des femmes, l'insalubrité, la maladie, de la Butte à la Bastoche, du quartier latin à Aubervilliers, en passant par Ménilmuche ou Belleville. Voilà, donc c'est une très belle initiative de cette édition et le livre m'a été envoyé gentiment par la maison d'édition.
Mais c'est un pavé, hein, ça ne s'appelle pas un livre.
Voilà, c'est un pavé. Effectivement, c'est un pavé donc, écrit par Benjamin Schlevin, dont le vrai nom... Et je ne sais pas, il ne s'est pas noté, donc qui est né à Brest-Litovsk, en Biélorussie, en 1913, et qui est arrivé à Paris en 1934. Et donc, c'est un livre qui a été publié en yiddish, juste après la guerre, en 1948, et il décrit la vie intense et tragique du petit peuple des artisans et ouvriers juifs de Belleville, originaire d'une Europe de l'Est, secouée par les suites de la guerre de 14-18, de la révolution bolchevique et aussi avec l'antisémitisme. Voilà, donc ce livre a été écrit en yiddish, donc il est très, très gros, hein, il fait 500 pages et il balaye, on peut dire, toute la vie, enfin la vie des arrivants de l'Europe de l'Est depuis... les années 20, hein, juste après la guerre, jusqu'à la fin de la guerre de 39-45, avec évidemment les tragiques déportations. Voilà. Alors, il a été traduit une première fois, comme le rappelle Denis Secker dans la préface, il a été traduit une première fois par Arnold Mandel, et donc c'est paru assez rapidement en français, je crois en 56, mais avec beaucoup d'erreurs, avec de la censure, on peut dire, des passages supprimés, qui ont enlevé quand même beaucoup de son intérêt. Alors on peut dire Arnold Mandel, et on peut dire c'est un passeur, hein, c'est quelqu'un qui a fait connaître beaucoup de choses, mais à l'époque aussi on traduisait peut-être trop vite et souvent pas très bien. Donc la traduction a été reprise à la demande des héritiers de Schlevin par Batia Baum et par Denis Seckert qui a pris le pseudonyme de Joseph Strasburger. Alors pourquoi Strasburger? Il faudra que je lui demande. Est-ce qu'il est né à Strasbourg? Je ne sais pas. Donc Batia Baum, comme il le rappelle, a travaillé vraiment avec ses dernières forces, puisqu'elle avait été très malade, et puis elle avait été hospitalisée. Ensuite, elle a eu un moment de répit pendant quasiment un an. Et puis, elle est décédée ensuite très rapidement. Et donc, pendant qu'elle était encore vivante, elle a vraiment travaillé énormément à ce livre, qu'ensuite, il a repris, donc, Denis Seckert, et qu'il a édité. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Schlevin raconte des choses qu'il n'a pas vécues lui-même, en fait. Ça se présente comme un grand roman, je dirais, classique, hein, à la Balzac, à la Zola, aussi comme les grands romans russes ou allemands, avec à la fois des descriptions sociales, des descriptions d'atmosphère et la description de Paris, donc ce Paris des années 20. Et également, nous suivons aussi le destin d'un certain nombre de personnages qui sont souvent décrits extrêmement, de façon très précise, très vivante, et dont le sort nous intéresse, hein, vraiment. Voilà, donc, je disais qu'il n'a pas vécu lui-même tous les événements, puisque ça commence, en fait, ça commence par une guerre et ça finit par une guerre. Ça commence par un épisode qui est peut-être un peu moins connu en France, c'est la guerre entre l'URSS et la Pologne. Donc, la Pologne, juste après la guerre du 14-18, devient indépendante. Mais l'URSS n'accepte pas cette indépendance, puisque, évidemment, la Pologne faisait partie de l'Empire russe. Hein. Et donc, il y a une guerre où on mobilise les jeunes Polonais. Et donc, le héros principal de ce livre, qui s'appelle Benny Greenberger, est mobilisé et il s'enfuit. Et il va passer d'abord par Berlin, puis il va arriver à Paris. Donc, nous avons une description déjà de la Pologne des années 20, c'est 18-20, et ensuite de Berlin dans ces mêmes années, et puis de Paris. Alors, tout cela, en fait, Schlevin ne l'a pas connu, puisque lui-même était encore en Pologne pendant toutes ces années-là. Il était très jeune, hein, il est né en 13, donc il n'a pas du tout été mobilisé en 1920. Hein. Mais il nous fait vivre ça comme les romanciers qui veulent faire vivre des choses qu'ils n'ont pas connues eux-mêmes. Hein. Et ensuite, il arrive donc à Berlin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Berlin, à ce moment-là, est vraiment en pleine dépression. Hein. On le voit aussi dans les descriptions d'autres auteurs. Il décrit par exemple cette Grenadierstrasse, qui est l'endroit où habitent tous les Juifs de l'Est. L'Allemagne a perdu la guerre, l'Allemagne est ruinée, l'Allemagne a perdu énormément de gens, de soldats bien sûr. Donc il y a une ambiance très triste. Par contre à Paris, Paris a également perdu énormément de soldats, énormément de jeunes gens, mais Paris a gagné la guerre. Et elle a aussi reçu des dédommagements de l'Allemagne. Et donc, c'est les années folles, quoi. C'est-à-dire, c'est des années très joyeuses à Paris. Et aussi, on manque de bras. Donc, il décrit très bien comment les jeunes gens de l'Est qui arrivent dans cette fameuse gare d'Inor, hein, oui. Puisque en yiddish, il n'y a pas le U, hein, donc on se moque toujours des gens qui parlent yiddish et qui essayent de parler français, donc dans la gare d'Inor.
Il a gardé l'écriture comme la prononciation. Quoi. Voilà. Il a gardé, mais juste entre guillemets, mais comme c'est immortalisé dans le livre sous Gardinor.
Gardinor, du même que Ri de Rivoli, de même que Bit Chaumont, etc. Oui, Chaumont d'ailleurs, parce que le O n'existe pas non plus en yiddish, donc Bit Chaumont. Voilà, donc tout ça est très bien décrit. Donc ces jeunes gens qui arrivent sont immédiatement rappés, si je puis dire, attrapés par des artisans qui ont besoin de main-d'œuvre. Alors c'est une main-d'œuvre très mal payée, qui travaille énormément, mais il y a du travail. En tout cas, dans les années 20. Hein, dans les années 20, c'est vraiment le moment du grand développement. Bon, après, il y aura la crise de 29 et ça ira plus mal. Et donc, Schlevin décrit tout cela, même s'il ne l'a pas connu, donc à travers ses personnages principaux, donc ce Benny Greenberger, qui est accompagné par un autre garçon qui s'appelle Herschel, et qui va s'appeler en France Jacou, alors qu'il n'est pas parti, il ne s'intègre pas particulièrement bien dans la société française, mais il s'appelle Jacou. Alors, on va peut-être illustrer ça par des chansons de l'époque.
Voilà, alors aujourd'hui, on n'écoute que de la chanson française. Ça va nous changer. Ce que ces immigrants, s'ils s'intéressaient à la culture locale, ça dépend peut-être lesquels, peut-être qu'ils restaient très dans leur yiddish, mais si jamais ils s'intéressaient à ce qui se passait à Paris à ce moment-là, il y a la fameuse Fréhel. Donc, c'est un CD que j'ai, où c'est un enregistrement de ses chansons entre 1909 et 1930, alors qu'elle-même, ses dates, c'est 1891-1951. Elle a vécu au-delà de la guerre. Mais là, c'est vraiment centré sur ces années. Et on va écouter, alors, je pense que ça devait quand même être vrai pour ces pauvres immigrés qui regrettaient quand même le pays natal. Ça s'appelle « J'ai le cafard ». Une de ses chansons très connues. J'ai le cafard par Fréhel.
N'en fut pas tout le malgré que je roule dans toutes les boîtes de nuit, cherchant l'ivresse pour que ma tristesse s'embrase à mes dans le bruit. Je hais ce plaisir qui m'use. Et quand on croit que je m'amuse, j'ai des pleurs, plein mon cœur. J'ai le cafard, je le sens qui me perce comme avec un poignard, la cervelle de part en part. Je me débats dans le brouillard, j'ai beau faire, je suis prise, et bien prise au traquenard du cauchemar. J'ai le cafard. Quand je me rappelle les heures si belles que j'ai vécues autrefois, les gais dimanches où en robe blanche j'allais courir dans les bois, quand je pense qu'au lieu d'être une fille, je pourrais avoir une famille, un mari et de beaux petits. J'ai le cafard, le passé c'est un truc qu'il faut mettre au rancard pour le reprendre, c'est trop tard. Et quand je vois par hasard des belles gosses qui comme moi n'auront que des avatars tôt ou tard, j'ai le cafard. Dans ma névrose, j'ai pris des tas de choses, éthers, morphine et coco, drogues infâmes qui charment les femmes pour mieux broyer leur cerveau. En songeant que chaque goutte de ce poison qui me dégoûte mène mon corps vers la mort. J'ai le cafard, voyez-vous la camarde, elle est là quelque part, elle guette mon départ. Mais viens donc, j'en ai marre, peu m'importe de crever, aujourd'hui ou plus tard, j'ai le cafard, j'ai le cafard.
Voilà, donc effectivement, ça doit être comme ce que entendaient les Juifs qui arrivaient, qui pouvaient de temps en temps aller peut-être dans des cafés où chanter ces chanteuses. Voilà, donc ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est que vraiment nous avons aussi l'évolution de Paris, hein, du Paris des gens de l'Est, bien sûr, pas le Paris élégant, on n'est pas chez Proust, mais on est chez ces Juifs de l'Est. Alors, je vous lis un petit passage. Tous ces Juifs qui, en ces premières années d'après-guerre, sont descendus à la gare Dinord, enfumés et ont respiré l'air de Paris, se sont vite retrouvés trop à l'étroit dans ces ruelles de Montmartre et du Plätzl. Donc le Plätzl, c'est le Marais, hein, c'est Saint-Paul, c'est la rue des Rosiers, où c'était les premières installations des Juifs. Hein. Dans le moindre petit hôtel reculé, dans la moindre chambre à terme, on entend les claquements d'un petit atelier de maroquinerie, d'une machine à tricoter et les murs tremblent sous les moteurs des machines à coudre chez des tailleurs façonniers. Bien qu'on soit passé en fraude, on obtient facilement ces papiers. Le pays a besoin d'eux, alors on ferme les yeux sur tout. À cette époque, on peut se faire régulariser même avec un reçu de laverie. Mais ça ne dure pas longtemps. Effectivement, avec la crise, avec le chômage, ça va être de plus en plus difficile de devenir français. Donc là, une description, donc voilà, donc ces juifs qui se sont d'abord installés donc au Pletz, elles vont émigrer à Belleville, Belleville qui est à la limite de Paris, et où il y a beaucoup d'hôtels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est-à-dire les gens vivaient à l'hôtel, hein. Donc les hôtels pas chers, avec des hôteliers, des hôtelières qui contrôlent, ça c'est Kadia Mododowski qui en parle. Mais on peut se loger facilement, pas cher. Oui, alors que font ces hôteliers? Ils contrôlent et ils signalent aussi à la police quand il y a des gens qui font de la politique. Puis ensuite, ils signaleront les gens sans papier. Il y aura des rafles, mais là, c'est plus tard. Hein, dans les années 20, on est encore dans une bonne période. Alors, voilà maintenant la description des gens qui travaillent. À cause de la presse en pleine saison, on doit tout oublier, même les enfants malades. Il faut livrer à temps, et même en trimant jusqu'au milieu de la nuit, il manque toujours un jour à la semaine. Il n'y a même pas la place de se remuer dans l'appartement. Alors l'appartement, c'était souvent simplement des chambres d'hôtel. Hein. Le peu de travail est jeté en vrac sur le lit et dans tous les coins. On espère pourtant se faire une meilleure situation. Mais en attendant, on court chaque jour à travers le boulevard de Belleville en portant les quelques pièces de travail enveloppées dans une toilette noire. Alors, toilette, c'est le vocabulaire de la couture. C'est un morceau de grossier tissu noir servant à empaqueter le travail des façonniers. Alors ça, c'est donné dans le glossaire qui est à la fin du livre. Ça s'appelle faire le façonnier, on ramène du travail à la maison. On ne sait pas ce qu'est une journée de travail à durée fixe. Et les bruits des machines à coudre et à piquer jusque tard dans la nuit, les voisins français n'en sont pas contents. Mais qui les écoute? Voilà, donc ça c'est vraiment dans tous les récits des juifs qui écrivent en yiddish à l'époque, on décrit comme ça ce travail extrêmement dur et... Aussi, c'est du travail payé à la pièce. Donc, quand arrive la morte saison, alors ça, c'est ce que tout le monde craint, en particulier l'été, eh bien, tout s'arrête et les gens ne gagnent plus rien. Donc, ils doivent vivre sur leurs maigres économies.
Ça alors, fait penser au récit de, pareil, pour l'Amérique, quoi. Les petits appartements où, à la fois, on vivait et on travaillait, les uns sur les autres...
C'est ça,
Hester
oui,
Street et tout ça.
Oui, la vie des juifs arrivant de l'Est, et pas seulement des juifs, hein, de tous les immigrants arrivant comme ça, est très très dure. Ah. Hein, oui. Et après, alors, quelle est l'ambition de ces juifs? C'est de, donc, on part du Pletzel, on va à Belleville, où on reste quand même un certain temps, et ensuite, on s'installe sur les grands boulevards, et là, on ouvre des beaux magasins, et on occupe de beaux appartements. Voilà, c'est ça qui est vraiment leur idéal. Hein. Donc, nous suivons donc Benny Greenberger qui vient de Pologne, donc comme je l'ai dit, qui avait été enrôlé dans l'armée mais qui a réussi à s'enfuir. Lui-même vient d'une famille de commerçants qui a été ruinée. Donc, il connaît un petit peu le commerce, mais il s'en est pas encore beaucoup occupé puisqu'il était jeune. Et il va être embauché par quelqu'un qui s'appelle Joseph Hecht. Alors Hecht, c'est un, ou Hecht plutôt en yiddish, c'est un brochet en fait. Hein, donc c'est un poisson qui mange les autres poissons. Alors ce Joseph Hecht, dont nous allons vraiment suivre l'histoire, hein, il a eu une première épouse qui est décédée en lui laissant une fille qui s'appelle Rechel qui est... mal faite, contrefaite, mais tout à fait intelligente et qui dirige l'atelier. Et en deuxième épouse, il a épousé une jeune femme qui s'appelle Rougele, qui, elle, est très jolie, mais qui n'a pas tellement envie de travailler. Et ils habitent tous dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Pékin, qui est vraiment le rassemblement de beaucoup de gens qui arrivent, hein, voilà. Donc, bien, eux, ils sont là déjà depuis un moment, mais ils sont toujours dans cet hôtel Pékin où ils ont également l'atelier, c'est-à-dire que Joseph a réussi à louer des chambres pour faire l'atelier. Donc, je vous lis le passage sur l'hôtel Pékin. Les 6 étages sombres et moisis de la bâtisse au bizarre nom exotique d'hôtel Pékin sont habités par une petite internationale. des Arméniens solitaires, marchands de quatre saisons, des clochards et éternels chômeurs, quelques Polonais, mineurs de charbon expulsés du Nord qui séjournent ici, plus ou moins hors de vue de la police, quelques couples de Français sans enfants qui, au milieu d'enfants, élèves, chats et chiens de race au museau court et humide, à tous les autres étages, des Juifs. Joseph est venu s'installer ici tout de suite après s'être mis à son compte quand il possédait à peine de quoi acheter un petit lot de cuir. Il a été l'un des premiers à s'échapper du plätzl devenu trop étroit avec l'afflux de nouveaux immigrés. Il paye ici une misère pour les quelques petites chambres de bonne sous le toit. Chaque samedi, après avoir versé la paye, il invite le concierge à boire un verre au café d'en face. Voilà. Et donc, nous avons toute cette vie de Belleville aussi avec les cafés, avec la synagogue aussi, qui a été construite par un Rothschild. Et toute cette vie de Belleville, même si, comme je viens de le dire, tout le monde a une seule idée, c'est de déménager de là-bas et d'aller sur les grands boulevards. Voilà, nous allons arrêter là. Donc ça, c'est vraiment les premières années de l'immigration juive à Paris. Je vais consacrer d'autres émissions à ce livre qui est très, très riche et très complet. Et alors, je vais quand même rappeler que le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril, il y aura donc l'inauguration, enfin le lancement de mon nouveau livre policier qui s'appelle Mortel Pourim. Alors, ce lancement aura lieu à la choucrouterie. Eh bien, pourquoi à la choucrouterie ? Parce que l'intrigue se passe, l'histoire se passe à la choucrouterie pendant une répétition de la Megillah d'Itzik. Et donc, venez donc le 1er avril à 18h30 et puis on jouera un petit peu un morceau de cette Megillah. Et en attendant, on va peut-être écouter une nouvelle musique.
Oui, on va écouter Ménilmontant. Voilà. Ça fait partie des beaux quartiers ou c'est intermédiaire ?
Non, c'est Ménilmontant, c'est autour de Belleville aussi.
Oui, c'est pas loin de Belleville, donc c'est intermédiaire, ce n'est pas le but final de
ces... Non, alors il ne parle pas de Ménilmontant, il me semble. Peut-être que ça va venir, mais dans les passages que j'ai lus, j'ai pas...
Donc voilà, je voulais faire entendre la fameuse chanson de Traîner, Ménilmontant. Il ne dit pas Ménilmuche, lui, il dit bien Ménilmontant. Traîner, on termine avec ça.
Voilà, et on vous dit Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
Et merci Thomas.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois, un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour prophétique et pathétique. Ménilmontant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille écolas, mille dinettes, chez sa dinette au bistrot, la biblette, lycée journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour, bonjour, alors te v'là de retour. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon
âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens maman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant.
Le Yiddish, aujourd'hui, chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualités, avec Astrid Ruf et Annette Fern.